Les Beaux Rôles est une idée originale d'Immersion CP. La série Balado propose un parcours d'insertion professionnelle des CP de l'enseignement supérieur à travers l'angle de la compétence numérique.
Ce qu'on oublie parfois, c'est que quand il y en a trop à faire, c'est pas un outil qui va nous aider.
Devenir conseiller ou conseillère pédagogique de l'enseignement supérieur, ça vient pas avec un mode d'emploi. C'est un métier qui s'apprend en le pratiquant. Je m'appelle Géraldine Lucier, je suis CP programme au Collège Montmorency à Laval depuis moins d'un an. Vous écoutez la série Les Beaux Rôles. Je pars à la rencontre de collègues d'un peu partout au Québec et je cherche des repères pour m'approprier mon nouveau rôle de CP. De façon générale, j'aime bien m'impliquer dans plusieurs projets. Je suis une personne plutôt organisée. Mais là, plus le temps avance, plus je gère de dossiers et plus j'ai des demandes de profs, mais je réalise que le manque de temps risque de devenir un enjeu. C'est ce qui m'amène à vous parler du thème de l'efficacité. Et quand il est question d'efficacité, le numérique est souvent un allié. Par exemple, moi, en ce moment, j'aimerais bien trouver un outil pour m'aider à faire un suivi efficace sur les programmes que je chapeaute. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une tonne d'outils disponibles. Donc, je me demande, comment on fait pour cibler le bon outil? Puis comment se l'approprier sans perdre un temps fou? Et de façon un peu plus large, bien, c'est quoi être efficace quand on est CP? Je vais donc aborder ce sujet avec mes collègues CP du cadre de porte, Marjolaine Lewis et Alexandre Dalpan.
Le cadre de porte.
Hey, salut!
Bonjour! Bonjour! Salut, salut vous deux! Ça va?
Oui!
Content de vous retrouver, Alexandre, Marjolaine.
C'est toujours plaisant.
Ça fait un bout? Ça fait
un petit bout. Bon, j'ai devant moi deux CP très à l'aise avec la technologie.
Ouais!
Parle de qui?
Non, je pense que c'est le cas. Mais j'imagine que ça vous est sans doute déjà arrivé de vous sentir dépassé par l'offre d'outils numériques.
Oh là,
est-ce que c'est le cas, Marjolaine?
Bien, puis très à l'aise, il faut le dire rapidement. Tu sais, je pense qu'on peut être très à l'aise avec certains outils, mais de là à tous les connaître, je pense pas. Je pense qu'il faut dire qu'il faut être à l'aise avec le flou parce que ça évolue tellement vite qu'on sera jamais à jour.
Fait
que,
c'est ça.
Il faut se concentrer sur aider le prof plutôt que de maîtriser tout le portefeuille des outils. Sinon, on dormira plus de la nuit puis on n'aura plus de vie. Là.
Okay.
Je sais pas, Alexandre, de ton côté. Là.
Oui, ben, c'est un peu la même chose dans le sens où, tu sais, au départ, oui, j'étais plus submergé un peu par cette affaire-là. J'étais manqué de temps, mal organisé peut-être dans la façon d'aller chercher de l'information. Fait que c'est sûr que maintenant, je le fais plus naturellement, mais avec la pratique, avec mes tâches de CPTIC, ben, j'ai des outils en place. Fait que, je suis capable d'en avoir un peu qui rentre spontanément, mais c'est sûr que quand on manque de temps, il y a toute la veille, tu sais, la veille techno, la veille pédagogique qui prend le bord en général. Fait qu'on finit par en faire un peu sur le côté, les soirs, les fins de semaine, puis là, c'est la santé mentale qui en prend un coup. Fait qu'on essaye de pas faire ça, puis c'est sûr qu'au départ, la méthode surtout peut manquer, puis là, on a du mal à identifier correctement les bons outils pour être CP. Okay. Puis on veut tous être efficaces, fait qu'on essaie toujours d'en chercher plus finalement.
Ça me rassure que vous êtes des humains, donc vous connaissez pas tous les outils encore.
Ben non, c'est ça, puis quand Alexandre parlait, moi, ça me fait penser, on a nos outils chouchous, là. T'sais, moi, j'aime beaucoup 4-5 outils, c'est eux que je propose aux profs, puis c'est eux que je maîtrise bien. Okay. Ou les outils institutionnels qu'on n'a pas le choix de privilégier parce que c'est ceux-là qu'on veut mettre l'avant dans notre entreprise, notre institution.
Ouais, c'est vrai. Là, ouais, chacun ses petits trucs un peu. Ouais.
OK. Je sais que ça peut paraître évident pour vous, mais pour un nouveau CP qui se considère débutant là, avec le numérique, comment faire pour choisir le bon outil puis se l'approprier?
Ben, nous, c'est notre mantra, là, on se le répète tout le temps avec mes collègues, c'était partir du besoin pédagogique de la personne qui est en face de soi. T'es pas arrivé avec un truc super gros, faire de l'esbrouf et faire du wow. On part du besoin pédagogique, fait que tout le temps que tu vas mettre là-dedans, tu vas être efficient, va être percutant. Okay. Fait que c'est sûr que, bah, il faut qu'il y ait des critères préétablis pour savoir qu'est-ce qu'on veut choisir, qu'est-ce qui est un bon outil. Donc ça, on peut y réfléchir en équipe aussi. Faut s'assurer que ça réponde toujours à ce besoin-là. C'est sûr que, bah, à un moment, le risque là-dedans, il y a toujours un risque, c'est de croire qu'on doit tout connaître. On veut toujours bien faire. Fait que là, on veut tout être partagé. Je veux avoir des outils pour chaque affaire. Fait que c'est sûr qu'à un moment, la meilleure façon, pour moi, c'est de se servir des gens autour de soi. Tu sais, le réseautage numérique, on a le fait de participer à des communautés de pratique. On a aussi des ateliers, discuter avec tes collègues CPTIC qui, des fois, ont du temps, ont plus de connaissances. Fait que ça te permet, tu laisses un peu les autres faire ton réseau. puis les infos rentrent naturellement dans ta tête. Là. Fait que c'est une façon, t'investis dans la veille, puis en même temps, à force, tu vas gagner du temps. C'est une pratique sur le long terme, je pense.
Ouais. OK. Fait qu'il faut pas trop se laisser intimider par toute l'offre existante. Si je comprends, il faut essayer vraiment de se concentrer sur le besoin, de se recentrer sur le besoin
idéalement,
de la personne. Ouais.
C'est ça. Puis si je peux le rajouter, il faut des outils simples, des outils intuitifs qui sont faciles à apprendre. C'est pas tous les professeurs qui ont le goût de passer 4 heures à maîtriser un outil. Fait qu'on prend des affaires simples ou qu'on a déjà des tutoriels.
Tu me feras une petite liste?
Oui, bien, ça va selon le besoin des profs. Puis nous, c'est des outils gratuits. Donc aussi, là, on peut pas tout avoir des outils payants. Puis c'est ça, tu sais, moi, j'en maîtrise certains outils à 90 %. Venez me poser des questions, là. Mais il y en a plein d'autres que je connais peut-être à 20, 40 %. Le prof vient me voir, bien, je vais le googler. Puis des fois, je le fais avec lui, puis je leur montre que ça se google aussi. Ils sont pas obligés de venir nous voir, qu'ils peuvent s'autonomiser. Puis les utiliser là, eux-mêmes, ces outils-là, puis faire des recherches, puis regarder des vidéos YouTube, ça s'apprend quand même facilement. Là.
Bonne idée. Alexandre, tu as parlé de réseau tantôt. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais m'en nommer quelques-uns?
Ben oui, il y en a plusieurs. T'sais, premièrement, ce qui me vient à l'esprit, mon chouchou, c'est le réseau des reptiles, là, en tant que CPTIC, beaucoup. Il y a Immersion CP aussi, maintenant, qui prend une belle place, puis qui propose beaucoup d'affaires pour les CP. Cadre 21 pour le développement professionnel, éductif pour tout ce qui est récit de prof, récit de pratique. Des chaînes YouTube de spécialistes en numérique aussi, il y en a pas mal, il faut trouver les bonnes là-dedans. En gros, les ressources ne manquent pas, c'est juste le temps qui va manquer, c'est toujours le fameux temps. Donc c'est sûr qu'en tant que CP associé au programme, j'ai tendance à dire, peut-être le conseil que je pourrais donner, c'est va voir ton CPTIC dans ton cégep ou tes CPTIC.
S'il y en a un.
Quand on est CP toutes, c'est vrai que CP toutes, on est associé au réseau des reptiques. Donc, ça peut être une façon aussi d'aller chercher de l'aide numérique là-dessus. Ça peut aider.
Oui, bien, pas à l'université. Il n'y a pas les reptiques. Donc, on a d'autres réseaux professionnels aussi qu'on peut s'entraider entre nous. Mais le réseau principal que moi, je pense qu'il faut utiliser le plus possible, c'est les profs eux-mêmes. Ils utilisent des outils, ils développent des trucs, ils ont des bonnes pratiques. Donc, nous, la façon de faire, c'est que sur l'heure du dîner, on faisait des webinaires, des échanges. Un professeur qui maîtrise super bien l'outil vient le présenter aux autres, les autres posent leurs questions, ils se créent un petit groupe, un petit réseau comme ça. C'est merveilleux parce que plus tard, même quelques mois après, si un prof m'apparaît avec une question que je ne sais pas trop, bien, je vais aller voir ce prof-là, puis ça va lui faire plaisir souvent de l'aider, il se sent valorisé, il s'entraide entre eux autres. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer là, la force de toutes les connaissances qu'il y a déjà à l'interne auprès des profs.
OK. Bien, je pense que j'ai des bons réflexes. Je vais vers mes collègues technopédagogues. Je connais certains réseaux que tu as mentionnés. Les profs, j'en prends note. Quelle bonne idée. En plus, je suis une ancienne prof. Donc, je ne sais pas pourquoi je pourrais oublier ça. Donc, très intéressant tout ça. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Marjolaine.
C'est à vous deux.
À bientôt.
À la prochaine.
Salut.
Maintenant, parlons d'efficacité, mais au sens plus large. Être efficace, ça veut dire quoi quand on est CP? Puis ça se traduit de quelle façon? J'en ai discuté avec Catherine Carré, qui possède un riche bagage en lien avec l'utilisation des technologies. Catherine a travaillé plus de 10 ans au privé comme conseillère en solutions d'apprentissage. Elle a ensuite rejoint le milieu universitaire à titre de CP, d'abord à HEC Montréal pendant 5 ans, puis à Polytechnique depuis 8 ans. Elle est notamment experte en formation en ligne et en formation hybride. Bonjour Catherine.
Bonjour Géraldine.
Catherine, tu as vraiment tout un CV. Tu travailles dans le domaine de la pédagogie et du numérique depuis plus de 20 ans maintenant, dont 13 comme CP. J'aimerais t'entendre sur ta perception de l'efficacité. C'est quoi pour toi être efficace quand on est CP?
Alors, c'est une excellente question. Moi, longtemps, j'ai cru que d'être efficace, en fait, c'était d'être capable de faire le plus de choses possibles dans la journée. Donc, on a des grandes listes de choses à faire et c'est de cocher toutes les cases sur la liste des choses à faire. Okay. Et c'est assez frustrant parce que longtemps, je me suis dit, mais je suis pas efficace. Moi, j'arrive jamais à cocher tous les articles de ma liste. Hein. Et puis, c'est parce qu'on est impliqué, en fait, dans toutes sortes de projets. Donc, on a toutes sortes de projets en cours. Et en plus, on a souvent des interruptions quand on est CP. Par exemple, quand un prof nous appelle parce qu'il a un problème, il commence son cours dans 2 heures, ben, ça devient une priorité. Donc, on laisse ce qu'on a à faire. Et puis, il faut l'aider. On est là pour ça. C'est le cœur de notre métier, c'est d'accompagner les profs. Et puis aussi, être efficace, en fait, on peut se poser la question de qu'est-ce qui est important pour la personne que j'accompagne. Donc, ça peut être une forme d'efficacité par rapport aux personnes qu'on accompagne plutôt que par rapport à notre liste des choses à faire.
De partir vraiment de leurs besoins, là, d'être vraiment à l'écoute de tout ça.
Absolument, oui. Donc, c'est le cœur de notre métier, bâtir finalement la relation qu'on va avoir avec les gens qu'on accompagne.
Okay.
Et puis aussi être efficace. J'ai une petite anecdote. L'autre jour, mon ordinateur catastrophe plante et j'ai ma grande liste des choses à faire.
Panique.
Avant la fin de la semaine. Et en fait, je me suis, il y avait rien à faire. Donc j'ai pris un carnet, j'ai pris un crayon et puis j'ai commencé à me dire bon. C'est quoi tous mes projets? Parce qu'on en a plein.
Beaucoup, hein, ouais.
Qui j'accompagne? Et puis, j'ai commencé simplement à me dire, OK, j'ai ressorti ma matrice, ma fameuse matrice d'Eisenhower. Qu'est-ce qui est important? Puis, qu'est-ce qui est urgent? Donc, je ne pouvais rien faire d'urgent parce que, de toute manière, je n'avais pas d'ordi. Mm-hmm. Et donc, ça m'a rappelé cette case important, non urgent, qu'on a tendance à oublier parce qu'on est toujours pris à vouloir être efficace.
À éteindre des feux, là, c'est ça qu'on se retrouve à faire des fois. Là.
Souvent, oui, on est là en train d'éteindre des feux. Et puis, finalement, au bout de 2 heures, mon ordinateur est reparti et je me suis dit, ça a été la demi-journée la plus efficace depuis le début de l'année.
Donc, de revenir à l'essentiel, c'est ce que je comprends un petit peu. Là.
Absolument, oui. Qu'est-ce qui est vraiment important? C'est quoi le cœur de mon travail? Okay. Puis, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier parce qu'on est toujours dans l'urgence? Donc, qu'est-ce qui est important et sur quoi on devrait travailler en priorité?
OK. Quels sont les obstacles à l'efficacité, selon toi?
C'est l'éparpillement. On est souvent très éparpillés. Et puis, c'est peut-être se poser la question, est-ce que c'est vraiment à moi, parmi toutes les tâches qu'on a à faire, est-ce que c'est vraiment à moi de le faire? On a tendance à toujours vouloir aider et puis peut-être sauver notre prof. Mais parfois, on peut se poser la question, mais c'est peut-être pas à mon service de faire ça. Peut-être ça, c'est à quelqu'un d'autre de le faire.
Okay.
Aussi, un gros obstacle aussi, c'est vouloir en faire trop. Donc, on a de plus en plus à faire, on travaille de plus en plus, parce que finalement, on est de plus en plus fatigué. Ça peut conduire aussi, puis ça, c'est un danger qui guette les conseils pédagogiques, parfois l'épuisement professionnel. Hein. Donc, on travaille de plus en plus, on est de plus en plus fatigué, et puis finalement, le risque à long terme, c'est de s'épuiser, et puis on s'entend que quand on est épuisé, on n'est plus du tout efficace.
Dans ta carrière, tu m'as raconté avoir suivi différentes formations sur la gestion du temps, de l'efficacité. Est-ce que l'efficacité passe nécessairement par le numérique? C'est une question que je me pose régulièrement.
Alors, j'en ai effectivement suivi énormément de formations sur la gestion du temps, sur les nouveaux outils. Et il y a toujours un outil miracle qui va nous aider. Donc, il y a eu Trello, après il y a eu Asana, après il y a eu... Enfin bref, on a toutes sortes maintenant. Ouais. On a des outils dans Microsoft. On a tendance à toujours dire « Ah, avec cet outil, ça va bien aller. Il est vraiment très efficace. » Ce qu'on oublie parfois, c'est que il n'y a pas un outil, quand il y en a trop à faire, c'est pas un outil qui va nous aider.
En effet.
En plus, c'est difficile parce qu'on est amené à travailler sur différents projets avec différentes personnes. Puis souvent, chacun des projets a son propre outil
numérique
pour gérer le projet efficacement. Donc, en fait, il faut apprendre à naviguer un petit peu à travers un petit peu tous les outils, puis se poser la question de qu'est-ce qui est efficace pour moi? Moi, j'ai vu certaines personnes très efficaces avec un petit carnet, avec un calepin. Ça existe encore.
Oui, c'est moi, ça, entre autres. Je suis encore là-dedans.
Si ça fonctionne pour toi, c'est que c'est un bon outil.
C'est ça. Tout le monde n'a pas besoin des mêmes choses pour être efficace non plus. Là.
Non, puis c'est sûr que pour travailler en équipe, c'est sûr que c'est peut-être se doter d'un outil numérique pour prioriser, oui. Mais sinon, je peux pas en suggérer un parce qu'il va y en avoir un autre.
Oui, ça change. OK. Pour terminer, quel conseil as-tu envie de donner à un CP qui commence dans le métier?
Ce que je donnerais comme conseil en arrivant en poste, c'est commencer à prendre un carnet, par exemple, ou pas, ça peut être numérique, mais moi j'aime bien le carnet parce que ça suscite aussi la réflexion. Mm-hmm. Puis commencer à se poser des questions, toutes les questions qu'on se pose en arrivant. Et puis, c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée en poste à Polytechnique, et je suis tombée un an ou deux plus tard sur les questions. Et c'était vraiment intéressant parce qu'il y a certaines questions auxquelles j'avais répondu, mais d'autres questions que je me posais encore.
OK, intéressant.
Donc, c'était peut-être des questions peut-être un peu fondamentales. Mm-hmm. qui me permettaient finalement de recadrer. Et dire, ah oui, ça, c'était important. Donc, je pense que ça peut aider. Et puis aussi, prendre des pauses, s'arrêter, puis toujours se questionner un petit peu sur son travail. Ce que je fais, est-ce que je m'éparpille? Qu'est-ce qui me permettrait aussi peut-être d'être plus efficace? Plutôt que de répondre individuellement à plusieurs personnes, hein, peut-être que ce serait de créer un outil qui permettrait finalement de répondre à des dizaines, voire des centaines de professeurs plutôt qu'un accompagnement individuel. Donc, tout ça, en fait, c'est important, finalement, de se concentrer sur les questions essentielles. Et puis, ça ne passe pas nécessairement par le numérique. Okay. Ça peut être aussi un petit tableau blanc dans son bureau où on met bien en vue nos tâches prioritaires et peut-être même aussi une maxime de ce qu'il faut retenir puis ce qu'il ne faut jamais oublier.
Intéressant. Merci beaucoup, Catherine Carré.
Merci, Géraldine.
Je retiens différentes choses des discussions que je viens d'avoir avec mes collègues. Par exemple, pour être efficace dans le choix d'un outil numérique, on n'a pas besoin de passer un temps fou à chercher. Encore une fois, et ça, c'est un élément qui revient souvent dans cette série, bien, il y a tout un réseau autour de nous pour nous aider, en autant que notre besoin soit clairement défini. Et je réalise qu'être efficace, bien, c'est pas nécessairement de répondre à toutes les demandes dans l'urgence. Comme nous le partageait Catherine, être efficace, c'est aussi de prendre le temps de s'arrêter pour réfléchir et revenir à l'essentiel. C'est un bon conseil et je pense que je vais essayer de l'intégrer à ma pratique. Dans le prochain épisode, comment développer son leadership dans la conseillance pédagogique?
Il ne faut pas être forcément consensuel. Il ne faut pas hésiter à s'opposer aux idées des profs, des collègues. Il ne faut pas juste le faire pour le faire, mais des fois, de dire « ben non, ça ne marche pas ».
Merci de me suivre dans cette série balado et je vous dis à bientôt!
Pour accéder au contenu et à la communauté d'Immersion CP, consultez la plateforme au www.i-immersioncp.ca. Au plaisir de vous y retrouver! La série Les Beaux Rôles est une production de Mémodia.